des Amériques, présenté aujourd'hui par Adrien Delgrange. Bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à toutes et à tous. De La Paz à Bogota, de Port-au-Prince à La Havane, soyez les bienvenus.
RFI.
Fin de campagne électorale ce soir en Bolivie, avant des élections présidentielles prévues ce dimanche 18 octobre. Autre campagne électorale aux États-Unis et le succès du vote anticipé des électeurs américains à moins de 3 semaines du scrutin. Nous serons aussi à La Havane. Cuba rouvre ses frontières aux touristes après 7 mois de fermeture. Nous évoquerons aussi cette marche des indigènes vers Bogota, des indigènes qui veulent mettre la pression sur le gouvernement colombien pour faire respecter leurs droits. Et puis enfin, Haïti, où nous attend pour notre rendez-vous hebdomadaire Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. J-3 avant les élections présidentielles en Bolivie. Des électeurs boliviens appelés aux urnes ce dimanche. Il y a un an, les dernières élections avaient été annulées dû à un mouvement de révolte sociale dans le pays. L'un des leaders de ce mouvement, qui avait d'ailleurs poussé à la chute du président Evo Morales, est désormais candidat à la présidentielle en Bolivie. Il s'appelle Luis Fernando Camacho et il était à la rencontre hier de ses électeurs dans la ville de Santa Cruz. Reportage de notre envoyé spécial Oriane Verdier.
Merci Santa Cruz.
Au milieu de la foule dressée sur un camion, Luis Fernando Camacho, quarantenaire, barbe de 3 jours et casquette blanche sur la tête, il fait le tour de sa ville Santa Cruz.
Nous avons commencé la lutte ici, nous allons la terminer ici, nous allons changer la Bolivie.
Au pied du camion, de nombreux jeunes, beaucoup étaient là il y a un an lorsque Luis Fernando Camacho appelait au soulèvement de la rue pour faire partir avec succès Evo Morales du pouvoir. Parmi les fidèles manifestants, il y a Natalia, 20 ans.
Nous savons tous que c'est le meilleur, il a fait que des milliers de personnes se lèvent devant Dieu et devant tous les autres. C'est notre leader.
Face à ceux qui accusent le candidat d'être trop conservateur, un nouveau Bolsonaro, Marta, avocate, la cinquantaine, répond, même pas peur.
Nous n'avons plus peur de rien, parce qu'avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous sommes en train de vivre sans parler de la pandémie, quelle peur pourrait-on avoir de plus? Et puis les engagements qu'il a pris sont très clairs. Il a bien vu comment nous avons fait sortir le dernier dirigeant. Nous pourrions faire de même, si ce n'est pire.
Luis Fernando Camacho est le 3e homme de ces élections. Il s'affiche comme le candidat de la rupture avec le mouvement vers le socialisme d'Evo Morales qui reste en tête dans les sondages. Oriane Verdier, Santa Cruz, RFI.
Et puis à noter, les autres principaux candidats pour l'élection présidentielle en Bolivie sont en lice aussi. Luis Arce, le candidat de la gauche, et le centriste Carlos Mesa.
RFI, la radio del mundo.
Place à la revue de presse des Amériques, nous sommes avec Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et à la une de ce jeudi, le vote anticipé aux États-Unis qui suscite, Romain, un véritable engouement parmi les électeurs démocrates.
Oui, c'est en tout cas ce qu'explique le Washington Post ce jeudi. À 3 semaines des élections du 3 novembre prochain, environ 15 millions d'électeurs ont déjà fait leur choix. À ce rythme, estime le quotidien, la moitié des électeurs pourraient bien avoir voté avant le jour du scrutin. Un engouement qui s'explique selon le Washington Post par la pandémie qui sévit aux États-Unis, mais pas seulement.
L'enthousiasme romain chez les électeurs démocrates serait également un facteur déterminant.
Oui, et cette forte participation au vote par correspondance pourrait bien faciliter l'obtention de résultats clairs et rapides le soir de l'élection, estime le quotidien. Si du côté du Parti démocrate on se réjouit d'un tel scénario, du côté républicain, on ne s'avoue pas pour autant vaincu. Les conservateurs estimant que les partisans de Donald Trump se mobiliseront le jour de l'élection, ce que confirme un sondage repris par le quotidien dans lequel plus de 60% des électeurs républicains annoncent qu'ils se déplaceront bien le 3 novembre.
Et nous restons aux États-Unis avec vous, puisque maintenant, depuis 3 jours, la juge Amy Coney Barrett est auditionné par un comité du Sénat romain pour être confirmé à la Cour suprême.
Oui, des auditions compliquées pour celle qui a été désignée par Donald Trump. Dans son édition du jour, le New York Times revient sur les pressions qu'elle subit. Donald Trump n'a eu de cesse ces derniers jours d'adresser des messages sur les réseaux sociaux expliquant ce qu'il attendait de la nomination d'une juge conservatrice, mettre fin à Obamacare, mais également être en mesure de résoudre toute bataille juridique concernant les élections à venir qui, selon le président, seront très probablement frauduleuses. Des déclarations qui mettent en doute la crédibilité d'Amy Coney Barrett, traite, selon les démocrates. Du coup, la juge tente de se défendre tant bien que mal, assurant notamment qu'elle prendrait des décisions basées uniquement sur la loi et les détails d'une affaire. Une situation embarrassante qui pourrait bien peser lors du scrutin du 3 novembre prochain, estime le quotidien.
Allons à présent à environ 200 km des côtes américaines où Cuba rouvre ses frontières au tourisme. L'épidémie de coronavirus a poussé l'île des Caraïbes à fermer pendant 7 mois ses frontières alors que le tourisme représente la deuxième entrée de devises à Cuba. La pandémie est maîtrisée sur l'île, nous dit-on alors. Le gouvernement mise désormais sur une reprise des activités économiques et sociales. Mais dans la capitale, il faudra encore patienter avant le retour des touristes. C'est un sujet de Domitille Piron.
C'est un tourisme de plage sur lequel parie Cuba. Le site balnéaire de Varadero est donc désormais accessible aux voyageurs internationaux comme les Cayos, les petites îles de sable blanc bordant Cuba. Avec un atterrissage directement sur place, un test PCR à l'arrivée et un suivi médical durant le séjour. Les touristes ne peuvent pour le moment qu'être hébergés dans les hôtels d'État. Et une particularité, il n'y aura aucune manipulation d'argent cash. Pour officiellement éviter les transmissions du virus, les transactions se feront donc par carte bancaire. Sachant que Cuba manque de devises, cette mesure permettra surtout de renflouer rapidement les caisses de l'État. Pour le secteur privé cubain, dont une grande partie travaille dans le tourisme, cette réouverture aujourd'hui ne change donc rien, tout comme pour la Havane, qui devra encore patienter. C'est à pleurer parce que nous vivons du tourisme, explique Miguel dans la rue Obispo, l'une des plus animées de la vieille Havane en temps normal. Ici, sa voisine, Yaima de Oliveira, a tout de même tenu à rouvrir son magasin de souvenirs.
C'est catastrophique parce que ça fait 7 mois qu'on ne travaille pas, mais bon, après la pluie vient toujours le beau temps, alors à présent, il faut respecter les mesures sanitaires et attendre un vaccin. C'est ça l'essentiel maintenant, il faut bien respecter les mesures d'hygiène et faire attention.
En effet, dans sa stratégie de reprise, le gouvernement compte à présent sur la responsabilité individuelle dans la lutte contre le coronavirus. Domitille Piron, La Havane, RFI.
RFI, où il est 15h16 à Paris, la suite de votre revue de presse, Romain Lemaresquet. Nous allons à présent en Colombie, où des milliers de membres des communautés indigènes entament aujourd'hui une marche pour se rendre à Bogota, la capitale. Ils comptent y rencontrer le président Iván Duque et dénoncer la vague de violence dont ils sont victimes.
Oui, après 2 jours de négociations infructueuses à Cali avec une délégation gouvernementale, entre 5 000 et 10 000 membres de ces communautés indigènes ont annoncé hier qu'ils comptaient se rendre directement à Bogota, détaillé El País. Un déplacement en bus qui devrait durer 5 jours et qui sera marqué par de nombreuses étapes, annonce El Tiempo. 200 autocars ont d'ailleurs été affrétés pour l'occasion. Les leaders de ces communautés réclament une rencontre en face à face avec le président Iván Duque pour dénoncer la violence et le non-respect des accords de paix de 2016. Ce que dément le haut-commissaire pour la paix dans les pages de Semana, Miguel Ceballos, qui estime que ces demandes cachent en fait des motivations politiques.
Et avant de se quitter, Romain, racontez-nous cette arrestation incroyable. Ça s'est passé dans le métro de Mexico où 2 personnes se déplaçaient avec des crocodiles dans des boîtes.
Et oui, 2 jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans ont été arrêtés hier sur la ligne 3 du métro de Mexico, la capitale, détaille Excelsior. Des agents des forces de l'ordre postés à l'entrée de la station ont demandé à ces 2 personnes d'ouvrir leur sac. Dans le sac, 2 boîtes en plastique qui contenaient chacune un bébé crocodile. Les 2 jeunes hommes ont été arrêtés et placés en détention car ils n'avaient pas de papier certifiant leur provenance et qu'ils leur appartenaient bien. Une affaire qui a fait le buzz et qui continue d'ailleurs de faire le buzz sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Romain. Romain Lemaresquet pour cette revue de presse des Amériques.
Radio France Internationale, Las Voces del Mundo.
Et cette question, comment faire le portrait de personnes dont on doit taire l'identité pour les protéger? Eh bien, c'est le défi qu'a tenté de répondre lancé par Marc Latulière, qui a tenté donc de répondre à ce défi. L'artiste français expose en ce moment à la Sorbonne, à Paris, une partie de son projet réalisé dans la région d'Uruba, en Colombie, une zone où les habitants se battent pour leur droit à la terre, menacée par les grands propriétaires et les groupes criminels. Marie Normand pour RFI a rencontré l'artiste le jour de l'inauguration de son exposition.
Alors, je m'appelle Marc Latulière, je suis artiste avec une pratique essentiellement photographique, même s'il y a des éléments d'installation dans mon travail. On est dans une région historiquement qu'on appelle l'Uraba, qui est à la frontière du Panama, au nord de la Colombie, qui est coincée, en fait, c'est le début de l'isthme de Panama, entre l'océan Pacifique et l'Atlantique. Donc c'est une région qui reste assez pionnière, mal contrôlée par l'État, extrêmement humide, avec de la jungle, des marécages, beaucoup de rivières. et historiquement des communautés d'anciens esclaves marrons qui venaient de la côte vers Carthagène. Et progressivement, en fait, la grande propriété, la grande agro-industrie et les trafiquants et cultivateurs de coca se sont développés dans cette région-là, rentrant en conflit avec ces communautés depuis plusieurs décennies.
Un conflit qui persiste même depuis la signature en 2016 des accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. D'autres groupes armés ont pris la place de la guérilla.
La technique de pression principale des forces qui s'opposent à ces communautés, c'est l'assassinat ciblé. C'est-à-dire qu'on va tuer des leaders, ceux qui ouvrent la voie dans ces luttes qui sont en partie juridiques, mais qui sont des bras de fer en fait. Donc évidemment, c'est une grande prise de risque de se montrer à visage découvert. Ma présence n'était acceptée et souhaitée que si je visibilisais en fait leur résistance, sans les mettre personnellement en danger.
Pour réaliser des portraits sans visage, Marc Latulière a demandé à chaque sujet de choisir une partie de son corps pour le représenter, ainsi qu'une plante de son environnement. Ce portrait composite est accompagné d'un texte écrit à la première personne, sous pseudonyme, dans lequel chacun a confié ses inquiétudes et ses espoirs.
Un portrait, c'est pas juste un visage. Un portrait, c'est des mots, ça peut être une partie du corps, ça peut être l'environnement auquel on est tous reliés. Donc c'est cette redéfinition de notre territorialité, de notre identité, qui m'intéressait d'aller chercher en Ouraba.
Alors parlez-moi de ce portrait-là.
C'est un portrait qui me touche beaucoup, parce que c'est une femme assez âgée d'une communauté qui s'appelle Pueblo Nuevo. Donc voici ce qu'elle écrit. « Je demande à l'aloe vera de me représenter. Mon oreille écoute beaucoup de choses. J'ai peur des massacres. Je ne veux plus entendre de nouvelles de personnes tuées ou maltraitées pour la défense de nos territoires. »
Son portrait à elle, c'est une oreille.
C'est la photo de son oreille, parce qu'elle écoute ces nouvelles en fait, qui lui font peur. Et en même temps, elle a choisi comme plante pour représenter une plante toute bête, qui est l'aloe vera, une plante médicinale, parce que ces communautés n'ont pas accès à la médecine. Ils sont loin des hôpitaux. Donc le jardin médicinal, surtout quand ils étaient réfugiés dans la forêt lors du conflit, sont des éléments majeurs de leur vie, même de leur survie.
Rendre visibles ces communautés en lutte pacifique dont on parle peu, l'un des objectifs de Marc Latulière, qui a reçu des conseils logistiques des Brigades de paix internationales. L'organisation souligne que 250 personnes, en majorité des leaders sociaux, ont été assassinées en Colombie depuis le début de l'année.
Marie Normand, pour cette exposition « Cresser, résistir, croître, résister en français », une exposition de Marc Latulière à découvrir à l'Université de la Sorbonne, c'est à Paris, jusqu'au 6 novembre.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
En ligne de Port-au-Prince, Franz Duval, bonjour.
Bonjour, Adrien.
Rédacteur en chef du Nouvelliste, le Nouvelliste qui fait sa une sur ces difficultés rencontrées par les Haïtiens pour retirer sa carte d'identification nationale, un document, Franz, qui sera obligatoire pour tous les Haïtiens à compter de demain vendredi.
Tout à fait. Demain 16 octobre, tout Haïtien qui n'a pas sa carte d'identification nationale peut être l'objet d'une amende jusqu'à des poursuites, des saisies sur salaire. L'État, dans un décret pris au début du mois de mars, a décidé que cette carte est dorénavant obligatoire. Sauf que la carte qui doit être émise par l'Office national d'identification n'est pas disponible pour tout le monde. 2 millions de cartes à peu près ont été distribuées, mais il reste 4 millions à distribuer. Et la difficulté vient de l'Office national de l'immigration qui ne peut pas émettre ces cartes, qui ne peut pas saisir les données et qui ne peut pas distribuer les cartes. Les Haïtiens font des queues interminables pour essayer de se faire inscrire et pour essayer de retirer la carte, car il y a deux péripéties. S'inscrire, c'est une péripétie. Retirer la carte, c'est une autre péripétie. Et c'est très difficile. On voit difficilement le gouvernement appliqué à partir du 16 octobre et les pénalités qui sont prévues dans le décret sur la carte d'identification nationale.
Tout autre sujet, Franz Duval, les associations patronales haïtiennes qui dénoncent l'arbitraire et les atteintes à la liberté d'entreprise dans le pays suite à des manœuvres du ministère du Commerce et de l'Industrie lundi dernier.
Le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé de faire des visites dans les entreprises pour vérifier si les prix sont affichés en gourde. C'est un décret du gouvernement qui fait cette obligation. Jusque-là, pas de problème, sauf que mardi, le gouvernement, le ministre, a fait arrêter un commerçant au prétexte que des prix n'étaient pas affichés en gourde. Sauf que la loi sur l'affichage des prix ne dispose pas d'arrestation. Alors le ministre a sorti une vieille loi de 1946 au sortir de la guerre quand le marché noir était interdit. Alors le ministre a utilisé ce stratagème pour arrêter un commerçant, mais a dû bien vite le libérer car en 1946, il n'y avait pas de problème d'affichage de prix, mais il y avait de vrais problèmes de marché noir situation qui n'existe plus en Haïti. Aujourd'hui, les associations patronales sont montées au créneau pour dénoncer les menaces, les intimidations, mais surtout les entraves à la liberté d'entreprise en Haïti suite aux mesures du ministère du Commerce et de l'Industrie.
Et puis enfin, ces nouvelles péripéties pour le rapport sur la gestion des fonds pétro-caribéens. Selon l'ancien sénateur Youri La Tortue, le Premier ministre Joseph Jout ne respecterait pas la procédure.
Le Premier ministre a été au Sénat mardi pour recevoir la dernière partie du rapport sur la gestion des fonds pétro-caribéens. Le Premier ministre a annoncé qu'il va mettre sur pied une commission pour analyser le rapport, pour refaire l'enquête quasiment. Sauf que c'est pas ce qui est prévu dans le règlement interne du Sénat. Le rapport qui émane de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en Haïti doit être transmis tout simplement à la justice. Déjà, deux parties du rapport ont été transmises à la justice. Il revient à la justice tout simplement de se prononcer. Mais là, on a l'impression que le Premier ministre est en train d'essayer de noyer le poisson, de reprendre tout à zéro.
Franz Duval, en ligne de Port-au-Prince pour Radio France Internationale, rédacteur en chef du Nouvelliste. Merci à vous.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Julie Straboni. Bonjour Julie.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et à partir de ce samedi, un couvre-feu sera instauré dans 9 agglomérations de l'Hexagone.
La mesure a fait ses preuves en Guyane, d'après le chef de l'État. Et si les indicateurs sont encourageants dans le département, on s'interroge sur le maintien de mesures strictes. Le point avec Véronique Betts.
La Guyane est actuellement en zone d'alerte. Cette catégorie concerne les territoires où le taux d'incidence est d'au moins 50 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Selon nos calculs, depuis une semaine, la Guyane est sous ce seuil. Pas de beaucoup, 47, mais sous le seuil quand même. Alors pourquoi nous maintenir de telles mesures de privation de liberté? Vendredi dernier, au micro de Jocelyne Elgouache, le préfet Marc Delgrande assume « Le couvre-feu a fonctionné, par prudence, il faut le maintenir. »
Nous devons rester très, très, très prudents. Plus peut-être que d'autres départements. Et lorsque j'entends que le virus risque de rester actif sur la planète jusqu'au milieu de l'année prochaine, il ne serait pas responsable de ne pas la maintenir.
On pourrait donc imaginer que le préfet envisage même de maintenir de telles mesures jusqu'au milieu de l'année prochaine, alors qu'on le rappelle, la Guyane est en simple zone d'alerte. Quant à l'interdiction de vente d'alcool de 18h à 6h, là aussi, le préfet estime que la fin justifie les moyens.
On évite des rassemblements qui favorisent la propagation du virus. C'est pas très très compliqué. Et on peut se le dire aussi, on fait œuvre de santé publique.
De telles mesures permettent aussi d'obtenir de bons résultats sur la sécurité routière et sur la délinquance. La liberté des Guyanais est donc moins importante que les résultats sécuritaires.
325 millions d'augmentation pour le budget de la police. Cette annonce gouvernementale a été bien accueillie par les forces de l'ordre en Guadeloupe. Mais pour le SGP Police FO, il manque toujours des moyens. Son secrétaire général, Patrice Abdallah, l'a expliqué à Sébastien Gilles.
C'est une belle annonce parce que quand on regarde ce qui est proposé, donc plus d'équipements pour les fonctionnaires de police, plus de véhicules, et aussi enfin la reconnaissance du statut de travailleur de nuit pour les fonctionnaires de police. Ce sont des choses qui étaient très attendues par les fonctionnaires de police. Il serait aussi important de parler des effectifs, particulièrement pour la Guadeloupe, qui mérite d'être renforcés. J'en veux pour preuve le commissariat de Bastère et Capestère qui sont dans un état moribond, et aussi la direction départementale de la police aux frontières, sans oublier les services d'investigation qui croulent tous les dossiers.
Un dernier mot sur la Martinique où un couvre-feu devrait être mis en place entre 21h et 5h du matin. On en saura plus en fin de journée. Bon après-midi.
Merci Julie Straboni pour toutes ces informations ultramarines. Et à demain sur les différentes fréquences de Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal d'Haïti et des Amériques. Juste avant de se quitter, vous livrez cette information plutôt importante nous concernant puisque nous serons demain en direct de l'Université de Chicago de Paris. À l'occasion de la journée d'études intitulée « Le rêve américain à l'épreuve de la présidence Donald Trump » dont RFI est partenaire, la rédaction vous propose une édition spéciale du journal d'Haïti et des Amériques présentée par Anne Verdaguet demain à partir de 15h10 heure de Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à Claude Battista qui l'a réalisée. Rédaction en chef Sylvie Noël.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Envie d'une boisson